chaque année, le mois d'avril, le Conseil de sécurité met à son ordre du jour le renouvellement du mandat de la MINURSO. Quelques semaines avant cette date, donc d'avril, il a été fortement question des attributions de la MINURSO et des caractéristiques de son mandat. Jusqu'à présent, la MINURSO est essentiellement une mission de paix, chargée donc d'organiser ce fameux référendum recommandé par la communauté internationale depuis 1966, et ce référendum qui n'a toujours pas eu lieu. Et la mission de paix n'a pas, comme beaucoup d'autres missions de paix des Nations Unies, d'attribution de surveillance du respect des droits de l'homme. Et donc c'est quelque chose que, au moins depuis 2005, au moins depuis 2010, le Polisario, les Sahraouis, les associations solidaires réclament de manière incessante d'assurer une protection et un respect des droits de l'homme et la sécurité et la libre expression des Sahraouis là où ils se trouvent.
Le Maroc s'est évidemment opposé à ce nouveau statut de la MINURSO.
La pression marocaine a été telle que rien n'a été changé et que la résolution de cette année a reproduit à peu près à l'identique celle de l'année dernière. Mais en tout cas, les choses bougent malgré tout dans la mesure où la communauté internationale reconnaît enfin que le respect des droits de l'homme, c'est un vrai problème au Sahara occidental, que la liberté d'expression n'existe pas et que les Sahraouis qui osent publiquement dire ce que dit la communauté internationale depuis des années et des années, eh bien, risquent leur vie, risquent un procès, risquent la prison, comme ceux de Benzik, qui sont condamnés pour certains à perpétuité et pour beaucoup à 25 ans.
Et justement, en fait, pourquoi est-ce que le Maroc est si attaché à ce morceau de territoire? Quels sont les enjeux pour le royaume, en fait, dans ce territoire?
L'enjeu en 75 était d'abord un sauve-qui-peut pour Hassan II. Il avait été extrêmement menacé par l'armée. Il y avait énormément de grèves dans les années 70 au Maroc du fait de la situation sociale. Et donc, c'était une manière pour Hassan II, en exaltant un renouveau nationaliste après l'indépendance de 56, c'est une manière pour lui de détourner l'attention à la fois des Marocains, des partis politiques, de faire une espèce de grand deal avec les partis politiques de gauche et avec l'armée, en focalisant les regards et les intérêts vers la récupération du Sahara occidental. Il y avait aussi sans doute un petit peu de rivalité et de concurrence de leadership au Maghreb avec l'Algérie. Et donc tout ça le permettait à Hassan II d'asseoir son royaume, d'asseoir son trône durablement et d'asseoir également sa suprématie au niveau du Maghreb, ou en tout cas de la conforter face à l'Algérie. Alors actuellement, on observe qu'à chaque fois qu'il y a un problème au royaume, le roi Mohamed VI reprend les mêmes techniques que le père et ressort le Sahara occidental comme manière de cohésion et manière d'oubli pour les autres problèmes. Les richesses naturelles sont certes importantes, c'est vrai que les phosphates existent au Maroc, au Sahara occidental, et agrandissent le pactole marocain en termes de phosphates. Les eaux poissonneuses du Sahara occidental alimentent les poissonneries marocaines et servent de lieu de pêche pour les bateaux marocains ou espagnols. Mais malgré tout, je crois que c'est davantage politique que strictement économique.